Marchande de sable, fable de La Fontaine. Le cygne et le cuisinier. Dans une ménagerie de volatiles remplis, vivaient le cygne et l'oison. Celui-là destiné pour les regards du maître, celui-ci pour son goût, l'un qui se piquait d'être commensal du jardin, l'autre de la maison. Des fossés du château faisant leur galerie, tantôt on les eut vus côte à côte nager, tantôt courir sur l'onde et tantôt se plonger, sans pouvoir satisfaire à leurs vaines envies. Un jour, le cuisinier, ayant trop bu d'un coup, prit pour oison le cygne, et le tenant au cou, il allait l'égorger, puis le mettre en potage. L'oiseau, prêt à mourir, se plaint en son ramage. Le cuisinier fut fort surpris, et vit bien qu'il s'était mépris. « Quoi ? Je mettrai, dit-il, un tel chanteur en soupe ? Non, non, ne plaise au Dieu que jamais ma main coupe la gorge à qui s'en sert si bien. » Ainsi, dans les dangers qui nous suivent en croupe, le doux parler ne nuit de rien. Les loups et les brebis. Après 1000 ans et plus de guerres déclarées, les loups firent la paix avec les brebis. C'était apparemment le bien des deux parties, car si les loups mangeaient maintes bêtes égarées, les bergers de leur peau se faisaient mains habits. Jamais de liberté, ni pour les pâturages, ni d'autre part pour les carnages. Ils ne pouvaient jouir qu'en tremblant de leurs biens. La paix se conclut donc. On donne des otages, les loups leurs louveteaux et les brebis leurs chiens. L'échange en étant fait aux formes ordinaires et réglé par des commissaires. Au bout de quelque temps que messieurs les loups va, se virent loups parfaits et friands de tuerie. Ils vous prennent le temps que dans la bergerie, messieurs les bergers n'étaient pas. Étranglent la moitié des agneaux les plus gras, les emportent aux dents, dans les bois se retirent. Ils avaient averti leurs gens secrètement. Les chiens qui sur leur foi reposaient sûrement furent étranglés en dormant. Cela fut sitôt fait qu'à peine ils le sentirent. Tout fut mis en morceaux, un seul s'en échappa, ne pouvant conclure de là qu'il faut faire aux méchants guerre continuelle. La paix est fort bonne de soi, j'en conviens, mais de quoi sert-elle avec des ennemis sans foi ? Le lion devenu vieux. Le lion, terreur des forêts, chargé d'ans et pleurant son antique prouesse, fut enfin attaqué par ses propres sujets, devenu fort par sa faiblesse. Le cheval s'approchant lui donne un coup de pied, le loup un coup de dent, le bœuf un coup de corne. Le malheureux lion, languissant, triste et morne, peut à peine rugir par l'âge estropié. Il attend son destin sans faire aucune plainte, qu'en voyant l'âne mène à son antre à courir. « Ah, c'est trop !» lui dit-il. « Je voulais bien mourir, mais c'est mourir deux fois que souffrir tes atteintes. » Philomèle et Prognier. Autrefois, Prognier l'hirondelle de sa demeure s'écarta et loin des villes s'emporta dans un bois où chantait la pauvre Philomèle. « Ma sœur, lui dit Prognier, comment vous portez-vous ? Voici tantôt 1000 ans que l'on ne vous a vue. Je ne me souviens point que vous soyez venue depuis le temps que de Thrace habitait parmi nous. « Dites-moi, que pensez-vous faire ? Ne quitterez-vous point ce séjour solitaire ?»« Ah !» reprit Philomèle, « en est-il de plus doux ?» Prognier lui repartit. « Et quoi, cette musique, pour ne chanter qu'aux animaux, tout au plus à quelques rustiques ? Le désert est-il fait pour des talents si beaux ? Venez faire aux cités éclater leurs merveilles. Aussi bien, en voyant les bois, sans cesse il vous souvient que Théré autrefois, parmi des demeures pareilles, exerça sa fureur sur vos divins appâts. » Et c'est le souvenir d'un si cruel outrage qui fait, reprit sa sœur, que je ne vous suis pas. En voyant les hommes, hélas, il m'en souvient bien davantage. La femme noyée. Je ne suis pas de ceux qui disent « ce n'est rien, c'est une femme qui se noie ». Je dis que c'est beaucoup. Et ce sexe vaut bien que nous le regrettions, puisqu'il fait notre joie. Ce que j'avance ici n'est point hors de propos, puisqu'il s'agit dans cette fable d'une femme qui, dans les flots, avait fini ses jours par un sort déplorable. Son époux en cherchait le corps pour lui rendre en cette aventure les honneurs de la sépulture. Il arriva que sur les bords du fleuve, auteur de sa disgrâce, des gens se promenaient ignorant l'accident. Ce mari donc leur demandant s'il n'avait de sa femme aperçu nulle trace. « Nulle, reprit l'un d'eux, mais cherchez-la plus bas, Suivez le fil de la rivière. » Un autre repartit. « Non, ne le suivez pas. Rebroussez plutôt en arrière. » Quelle que soit la pente et l'inclination dont l'eau par sa course l'emporte, l'esprit de contradiction l'aura fait flotter d'autre sorte. Cet homme se raillait assez fort de ses ans. Quant à l'humeur contredisante, je ne sais s'il avait raison. Mais que cette humeur soit ou non le défaut du sexe et sa pente, quiconque avec elle naîtra sans faute, avec elle mourra, et jusqu'au bout contredira, et s'il peut, encore par-delà. La Belette entrait dans un grenier. Damoiselle Belette, au corps long et floué, entra dans un grenier par un trou fort étroit. Elle sortait de maladie. Là, vivant à discrétion, la galande fit chair au lit, mangea, rongea, Dieu sait la vie et le lard qui périt en cette occasion. La voilà pour conclusion grasse, m'afflue et rebondit. Au bout de la semaine, ayant dîné son sou, elle entend quelques bruits, veut sortir par le trou, ne peut plus repasser et croit s'être méprise. Après avoir fait quelques tours, c'est, dit-elle, l'endroit, me voilà bien surprise. J'ai passé par ici depuis 5 ou 6 jours. Un rat qui la voyait en peine lui dit « Vous aviez alors la panse un peu moins pleine. Vous êtes maigre entrée, il faut maigre sortir. Ce que je vous dis là, l'on le dit à bien d'autres. Mais ne confondons point par trop approfondir leurs affaires avec les vôtres. » Le chat et un vieux rat. J'ai lu chez un conteur de fables qu'un second rodilard, l'Alexandre des chats, l'Attila, le fléau des rats, rendait ces derniers misérables. J'ai lu, dis-je, en certains auteurs, que ce chat exterminateur, vrai Cerbère, était craint une lieue à la ronde. Il volait de souris dépeupler tout le monde. Les planches qu'on suspend sur un léger appui. La mort aux rats, les souricières, n'étaient que du jeu au prix de lui. Comme il voit que dans leur tanière les souris étaient prisonnières, qu'elles n'osaient sortir, qu'il avait beau chercher, le galant fait le mort. Et du haut d'un plancher se pend la tête en bas. La bête scélérate à de certains cordons se tenait par la patte. Le peuple des souris croit que c'est châtiment, qu'il a fait un larcin de rôt ou de fromage. Égratigner quelqu'un, causer quelques dommages. Enfin, on a pendu le mauvais garnement. Toutes, dis-je unanimement, se promettent de rire à son enterrement. Mettent le nez à l'air, montrent un peu la tête, puis rentrent dans leur nid à rats. Puis, ressortant, font 4 pas, puis enfin se mettent en quête. Mais voici bien une autre fête. Le pendu ressuscite et sur ses pieds tombants, attrape les plus paresseuses. « Nous en savons plus d'un, » dit-il en les gobant. « Ces tours de vieille guerre et vos cavernes creuses ne vous sauveront pas, je vous en avertis. Vous viendrez tout au logis. » Il prophétise et vrai. Notre maître Mitis pour la seconde fois les trompe et les affine, blanchit sa robe et s'enfarine, et de la sorte déguisée, se niche et se blottit dans une huche ouverte. Ce fut à lui bien avisé. Un agent 30 menus s'en vient chercher sa perte. Un rat en plus s'abstient d'aller flairer autour. C'était un vieux routier. Il savait plus d'un tour. Même il avait perdu sa queue à la bataille. « Ce bloc enfariné ne me dit rien qui vaille, » s'écria de loin en général les chats. « Je soupçonne dessous encore quelques machines. » « Rien ne te sert d'être farine, car quand tu seras sac, je n'approcherai pas. » C'était bien dit à lui. J'approuve sa prudence. Il était expérimenté et savait que la méfiance est mère de la sûreté. Le lion amoureux. Sévigné, de qui les attraits servent aux grâces de modèle et qui naquit de toute belle à votre indifférence près, pourriez-vous être favorable au jeu innocent d'une fable et voir sans vous épouvanter un lion qu'amour sut dompter? Amour est un étrange maître, heureux qui peut ne le connaître que par écrit, lui ni ses coups. Quand on en parle devant vous, si la vérité vous offense, la fable au moins ne peut souffrir. Celle-ci prend bien l'assurance de venir à vos pieds s'offrir, par zèle et par reconnaissance. Du temps que les bêtes parlaient, les lions, entre autres, voulaient être admis dans notre alliance. Pourquoi non? Puisque leur engeance valait la nôtre en ce temps-là. Ayant courage, intelligence et belle hure outre cela. Voici comment il en alla. Un lion de haut parentage, en passant par un certain pré, rencontra Bergère à son gré. Il la demande en mariage. Le père aurait fort souhaité quelque gendre un peu moins terrible. La donner lui semblait bien dure. La refuser n'était pas sûr. Même un refus eût fait possible qu'on eût vu quelque beau matin un mariage clandestin. Car outre qu'en toute manière la belle était pour les gens fiers, fille se coiffe volontiers d'amoureux à longue crinière. Le père donc ouvertement n'ose renvoyer notre amant. Lui dit « Ma fille est délicate, vos griffes la pourront blesser quand vous voudrez la caresser. Permettez donc qu'à chaque patte, on vous les rogne, et pour les dents, qu'on vous les lime en même temps. Vos baisers en seront moins rudes, et pour vous plus délicieux, car ma fille y répondra mieux. » Étant sans ses inquiétudes, le lion consent à cela. Tant son âme était aveuglée. Sans dents ni griffes, le voilà, comme place démantelée. On lâche sur lui quelques chiens. Il fit fort peu de résistance. Amour, amour, quand tu nous tiens, on peut bien dire adieu, prudence.